Direct à vous, une émission proposée par DFM 930 avec Pierre.
Nous sommes toujours avec Madame Caille et Madame Castin pour parler du duc d'Épernon.
Mais c'est quand même après la mort d'Henri IV une dégradation abominable de l'image du Gascon qui s'accentue encore en 1619 avec l'apparition du baron de Fainest d'Agrippa d'Aubigné qui là est un assassinat en pure forme.
Vous savez pourquoi Agrippa d'Aubigné était
pour la trahison d'Henri IV qui justement abjure son protestantisme.
Non, parce qu'en plus c'est vrai qu'on l'a dit tout à l'heure, c'est vous qui l'avez dit, on va lui reprocher d'avoir été dans le carrosse d'Henri IV et toute la partie de Guise, la famille de Guise, même si celui duc de Guise avait été assassiné, vont vouloir encore le faire porter le chapeau d'un certain côté en disant que c'est lui qui est à l'origine, et on sait très bien que c'est pas vrai, et donc ça a toujours été contre lui. Et à cette époque-là, il faut aussi savoir, je ne vous l'ai pas dit ça tout à l'heure, mais quand il se retrouve, c'est une autre période, il a vécu trop longtemps, autant à l'époque d'Henri III, il était entouré d'amis et du roi, tout ça. À l'époque d'Henri IV, Henri IV n'est pas pour rien protestant quand même, parce certains côtés, il a auprès de lui Sully, Agrippa d'Aubigné, toute la cour autour du roi d'Henri IV était quand même des anciens protestants, même s'ils s'étaient convertis au catholicisme, tout au moins pour certains. Et donc ces gens-là n'auront que de cesse de le faire tomber d'un certain côté. Vous voyez. Donc il y a eu des hauts et des bas dans sa vie, mais on ne peut pas raconter tout ça aujourd'hui parce que c'est vraiment trop,
ça fait trop
important. Et absolument, il faut que Delphine puisse parler plus longtemps en gascon.
Oui, voilà. Alors justement, on va finir sur quelque chose que l'on peut visiter maintenant, le château de Caumont. Est-ce qu'on peut le visiter à n'importe quelle heure? Est-ce qu'on peut le visiter à n'importe quel jour? Comment ça se passe?
Les heures, je ne les sais pas, mais je sais que dans l'hiver, Madame de Castelbajac ne fait pas visiter, mais elle reprend au printemps, puisque c'est un monument historique, elle reprend au printemps. Et ce qui est intéressant pour cette exposition, traduite donc en gascon par Delphine, c'est qu'elle a... elle a un exemplaire de l'exposition qui sera exposé à partir de l'été dans la galerie du château de Caumont. Donc les gens qui voudront en savoir plus et de manière plus sérieuse que ce qu'on a fait aujourd'hui, plus approfondie d'un certain côté, peuvent aller voir ça dans la galerie du château de Caumont.
Alors ce château de Caumont, je veux dire que c'est un château Renaissance.
Oui, et il est dû en plus. Alors, non seulement c'est un des plus grands châteaux du Gers, il ne faut pas me demander des choses pareilles, mais il est dû à Nicolas Bachelier. Et Nicolas Bachelier, c'est celui qui a créé l'hôtel d'Assesa à Toulouse. Donc, c'est un grand architecte de la Renaissance française. Et si vous voulez, où on peut... Alors, on se lance dans l'architecture, dans l'histoire de l'architecture, mais on part d'une forteresse qui est encore médiévale un peu et qui commence à s'ouvrir aux beautés de la Renaissance italienne et à la manière italienne de vivre, et en particulier dans la cour du château de Caumont, vous avez une coursive qui est déjà, que vous retrouvez à l'hôtel d'Assesa, qui est déjà dans le goût nouveau. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de choses à dire sur le duc de Caumont, mais sur l'endroit aussi où il a vécu et qu'il a vu, qu'il a amélioré. Voilà.
Alors, les auditeurs pourront aller sur Internet et voir château de Caumont et ils trouveront tout un tas de détails.
C'est à côté de Caso Savès.
Voilà.
Et voilà, et c'est à côté de l'île Jourdain, c'est quand même peut-être encore plus simple à expliquer.
Mais, Madame Castin, on va terminer avec vous parce que vous allez pouvoir nous donner des références,
oui,
de livres.
Oui. Ben, il faut absolument lire, absolument, c'est pas...
Dites-le.
Vivement la lecture.
Avec panache.
Avec panache, c'est admirable. Franchement, c'est un poème sensationnel. Donc, cette petite pépite s'appelle Lou Gentilhomme et Gascou de Guillaume Adair. On peut la retrouver à travers différentes éditions. Et puis, il faut savoir que cette Renaissance gasconne, qui, justement, c'est en Gascogne que la langue occitane va retrouver un peu de son dynamisme après cette grande période des troubadours que j'évoquais tout à l'heure. Et on doit ça donc à Pays de Garros que je citais, mais également à Salluste du Bartas et à tant d'autres poètes dont Guillaume Adair et un de nos plus grands intellectuels dont on fête le centenaire, Robert Laffont, a justement écrit une thèse sur la Renaissance du Sud. Donc ça encore, c'est un bel ouvrage à lire. Et puis nous sommes ici à proximité d'un des spécialistes de cette littérature renaissance qui est Jean-François Courreau, qui écrit Les premiers combats pour la langue occitane, voilà, tellement de choses. Et on citait également Véronique Larcade qui a écrit un court ouvrage très intéressant, abordable, qui est Les capitaines gascons.
Le gascon, qu'est-ce que le gascon?
Alors vous parlez de qu'est-ce que le gascon, voilà. Oui, moi je sais Les capitaines gascons que j'ai beaucoup apprécié.
Vous c'est Les capitaines gascons, ouais. Et sinon l'autre c'est plus sociologique presque. Qu'est-ce que c'est qu'un gascon, on va dire.
Voilà. Ça, commence à sentir ce que c'est là. Hein. Et vous avez vu sur votre téléphone, Monsieur Blanchard.
Ah oui, on parlait également, Marie-Thérèse, voilà. Du Duc d'Épernon de Denis Blanchard d'Ignac, hein, aux éditions Sud-Ouest.
Voilà. Eh bien, on va faire une pause.
Direct à vous, une émission proposée par DFM 930.